Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ravis d'attaquer cette toute nouvelle semaine avec vous et avec une équipe au top. Aujourd'hui, nous avons tout d'abord Paul Lassène. Bonjour Paul.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Qui remplace Rémi, parti en vacances. On est également avec le journaliste Daniel Riolo. Bonjour Daniel.
Salut tout le monde.
On est aussi avec le journaliste de Marianne, Perico Légas. Salut Perico.
En vacances, c'est bien quand c'est pas l'un, c'est l'autre.
Hein. Bah, c'est un peu ça.
C'est rare de avoir tous les deux ensemble.
Bah, c'est jamais moi en vacances. Hein.
Oui, bah, c'est oui. Jamais toi. Voilà.
Et on n'est jamais en vacances tous les deux en même temps. Tu vois. Voilà. Mais oui, c'est un peu comme la garde alternée. Vous voyez, on s'arrange. Voilà.
Et ben, je veux bien te regarder aujourd'hui.
Et donc, cette semaine, c'est moi qui garde les enfants.
Et ben,
voilà.
Bienvenue Estelle, vous êtes, faites comme chez vous.
Merci. Oui, ben, je suis un peu chez moi quand même. Notre infectiologue préféré, Robert Sebag. Salut Robert.
Bonjour, pas en vacances.
Et vous, bien sûr, on vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC pour réagir à tous nos débats aujourd'hui. Avec tout d'abord la ministre Sarah El Haïry qui appelle à ouvrir le débat sur la GPA. D'accord, pas d'accord, dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. À midi et demi, on parlera du muguet. Voilà, c'est une tradition hein, d'offrir du muguet le 1er mai. Mais cette année, il va coûter très très cher, plus de 5 euros le brin. Est-ce qu'il faut arrêter avec cette tradition du muguet? Ce sera à midi et demi. À 13h, on parlera des propos de Léa Salamé qui a reproché au comédien Artus d'être devenu chiant après avoir arrêté l'alcool. Est-ce que ça vous choque? À 13h30, ce sera le zapping, le meilleur d'RMC. À 14h, on parlera du succès des croisières avec 40 millions de passagers attendus en 2027. Est-ce qu'il faut limiter le nombre de croisières? Et puis à 14h30, RMC Conso, on parlera de toutes les idées reçues autour du micro-ondes. Est-ce que le micro-ondes est dangereux pour la santé? On essaiera de démêler le vrai du faux avec Charlotte Méritant.
RMC Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on démarre tout de suite avec l'actualité du jour. Et c'est la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, Sarah El Haïry, qui appelle à ouvrir le débat sur la GPA, la gestation pour autrui. Si elle est autorisée dans certains pays, elle est strictement interdite en France, même si chaque année, des centaines de couples français partent à l'étranger pour y avoir recours, Paul.
Oui, même si le recensement est assez compliqué à effectuer, on estime à environ 300 le nombre d'enfants français nés chaque année d'une GPA à l'étranger, avec une destination particulièrement prisée, les États-Unis, qui figurent à la première place des pays vers lesquels se tournent les couples à la recherche d'une mère porteuse. Alors, la filière y est très sécurisée, mais c'est aussi la plus chère, avec une facture qui peut grimper jusqu'à 150 000 euros par enfant. D'autres pays, comme Israël par exemple, ont récemment changé leur législation pour l'autoriser, là aussi, très strictement. Et alors que ce débat politique pourrait s'installer en France, c'est la volonté de la ministre Sarah El Haïry. Des décisions importantes ont été prises au niveau européen la semaine dernière. Les eurodéputés ont adopté une révision de la directive contre le trafic d'êtres humains afin d'inclure dans la liste des crimes l'exploitation de la gestation pour autrui. Alors attention, le Parlement européen ne fait pas pour autant de cette gestation pour autrui en tant que telle, une forme de traite d'êtres humains, mais elle veut sanctionner directement les réseaux illicites qui, je cite, forcent ces femmes à être mères porteuses ou qui les amènent à agir ainsi par la ruse. L'UE annonce que des sanctions fortes seront prévues pour les entreprises reconnues coupables de ces trafics.
Alors, faut-il ouvrir le débat sur la GPA en France? Je vais commencer avec vous, Perico Légas.
C'est le débat du siècle, avec deux lectures possibles. Soit on est hostile au principe de la gestation pour autrui, soit on est hostile au fait que deux êtres d'un même sexe puissent avoir des enfants. Moi, je suis favorable, et j'en fais un combat, peu importe ce que j'en fais, c'est partagé par des gens, par les humanistes, deux êtres d'un même sexe ont le droit d'avoir des enfants. Voilà. Ensuite, la GPA, ça passe par l'utilisation du ventre d'un être humain,
oui,
dans des conditions qui peuvent être quelquefois contestables. Pas toujours, quelquefois, il peut y avoir consentement.
C'est très réglementé. Hein. Bien c'est... sûr qu'il y a consentement.
Oui, ensuite, il y a la détresse humaine. Il y a la détresse d'une femme qui a loué son ventre et qui sait qu'elle a un enfant qu'elle a créé qui n'est plus à elle. C'est un enfant qui, un jour, apprend qu'il est le fruit d'un ventre loué.
Oui.
Si on lui dit la vérité. Bon, on n'a pas les réponses encore à tout ça.
Oui,
moi, j'ai connu, moi, j'ai côtoyé un drame.
D'accord. Voilà. Moi, j'ai vu des enfants nés sous GPA qui sont très, très heureux.
Oui, je ne parle pas de cela. Cela, c'est formidable.
Mais oui, mais c'est des enfants. Après, non, mais.
Si c'est 100% des cas, il n'y a pas de débat, c'est réglé.
Sur la mère porteuse, bien sûr qu'il y a débat. Mais sur les enfants, en vrai, c'est des enfants qui sont choyés, qui sont désirés, etc.
Estelle,
il n'y a pas de débat sur les enfants. Il y a des débats sur la mère porteuse.
On ne sait pas. il y a des enfants qui peuvent mal le vivre. Et alors, dit, comment bien vous sûr, m'avez fait de façon... Non, non, le débat sera ouvert en permanence. Faudra trancher un jour. Sauf que ça touche à quelque chose de la bioéthique de fondamental. Ça touche à la vie, ça touche à la maternité. Je parle même pas de paternité. Ça touche au rôle de la mère. Est-ce qu'une femme peut se louer pour le bonheur d'un couple qui a besoin d'enfants?
Et la femme est d'accord.
Oui, mais on ne sait pas les conséquences après. Si voilà, c'est un, je suis pas femme, je peux pas vous dire. Vous
aux
êtes
États-Unis,
mère.
C'est, aux États-Unis, t'as un contrat entre le mère. Couple et la mère porteuse.
Je
ne
peux pas vous demander. Est-ce que vous le feriez peut-être pour une amie? Oui, vous venez d'Italienne.
Non, je le ferai pas. Mais non, je le ferai pas.
70 ans, qui avait prêté son ventre à sa fille. Non, c'est extraordinaire.
Non, mais Périco, moi, je ne le ferai pas. Bien sûr que non, je ne le ferai pas. Et en vrai, on va dire, allez, philosophiquement parlant, je suis contre. Voilà. Mais j'ai des couples d'amis qui ont eu des enfants nés sous GPA. Les enfants sont très heureux. Après, philosophiquement, je suis contre, effectivement. Mais ces enfants sont heureux. Et ça aussi, il faut le dire.
Ça, c'était la face du problème qui va bien, positif, formidable, merveilleux, ça amène le bonheur. Et puis, il y a l'autre où on n'a pas résolu le problème et il n'est pas acceptable.
En Israël, ce n'est pas monnayé, par exemple.
Je sais bien, Estelle. Il n'est pas acceptable que parce qu'on a un doute là-dessus, on se fasse traiter d'homophobe. C'est tout. C'est un problème humaniste.
Non, mais ça, c'est autre
que ce
chose.
Soit qu'on soit chrétien, musulman, juif, athée.
Il y a des couples hétérosexuels qui ont recours à la GPA.
Il y a un problème humain. Il y a le respect. Moi, je suis dans le respect de la femme.
Très bien.
Et si j'ai le moindre doute sur le fait qu'une femme puisse mal le vivre ou ne pas être respectée, à ce moment-là, je demande à ce qu'il y ait débat et qu'on éclaircisse le problème dans la sérénité la plus totale. Mais ne fermons pas le débat.
Après, je vais me faire l'avocat du diable. Aujourd'hui, les couples de lesbiennes peuvent avoir recours à la PMA et peuvent avoir des enfants.
Oui.
Aujourd'hui, effectivement, les couples de gays garçons, c'est plus compliqué. T'as ce que je veux dire.
Un cas de figure où la femme a une supériorité sur l'homme. On va s'en réjouir. C'est comme ça. C'est la nature qui le veut. Alors, c'est formidable. Et que deux papas aient envie d'avoir un bébé, je connais des cas, c'est formidable. Sauf que ça passe par l'intermédiaire d'une femme qui est un être humain, qui a le droit à tous les respects, toute la précaution pour elle et pour l'enfant.
Robert Sebag, évidemment, je me tourne vers vous qui êtes médecin. Je sais que c'est un sujet extrêmement délicat, c'est un sujet qui divise, même si, effectivement, Paul l'a rappelé, voilà, aujourd'hui, l'Europe dit non. Hein.
Je suis extrêmement mal à l'aise sur ce sujet et je vais essayer de répondre pour oublier un petit peu les problèmes éthiques que ça me pose sur faut-il ouvrir le débat. Mais le débat, il est ouvert, il est déjà là. Je vais vous faire un tout petit peu d'histoire. Il y a eu le Pax, d'abord. Et au moment du Pax, on a dit, attendez, la ligne rouge, c'est le mariage pour tous.
Hein. Madame Taubira, ça n'ira pas plus loin.
Ça n'ira pas plus. Le Pax. Ensuite, on a dit le mariage pour tous. Mais ne vous inquiétez pas, le mariage pour tous, ça s'arrêtera là. Il n'y a pas de PMA, il
n'y
a pas de problème, on verra. Sans parler des problèmes de filiation.
Mais le mariage, il est pour aujourd'hui, c'est formidable.
Oui, d'accord.
Et la troisième étape aujourd'hui, ben, elle était normale. Tout le monde a dit, mais non, écoutez, s'il y a la PMA, pourquoi deux couples de femmes lesbiennes, elles ont droit, et pourquoi deux couples hommes, un couple homme n'a pas le droit à ça? Alors, donc déjà, le débat, il est ouvert, et le débat, il va se faire. Et puis en plus, si vous voulez, quand Madame Taubira a donné la nationalité française à des enfants qui sont nés à l'étranger. Donc déjà, on a ouvert la porte. Ça veut dire que la GPA, vous pouvez l'interdire peut-être dans notre pays, mais ça n'empêchera pas des gens, puisque de toute manière, l'enfant qui va naître par GPA à l'étranger, il y a une jurisprudence comme quoi...
L'Angleterre a ouvert uniquement pour les Anglais, par exemple.
Oui, d'accord. Voilà. Mais bon, c'est déjà... Tu vois. Alors moi, j'ai le vrai problème, si vous voulez, que ça me pose, tu l'as dit, Perico, c'est une femme, la mère porteuse, qui pendant 9 mois, vous savez ce que c'est que d'avoir une grossesse, un enfant qui va grandir.
Oui, je sais bien, oui.
Voilà. Et puis tout d'un coup, on va dire, ben madame, c'est terminé. Merci.
Oui, mais elle le sait, la mère porteuse, c'est un contrat.
Vous ne pouvez pas modifier les sentiments.
C'est pas une machine.
Vous ne pouvez pas modifier la perception.
C'est pas un animal.
Il peut y avoir un attachement qui se fait. Ça me fait extrêmement, extrêmement mal.
C'est pour ça que tu as des couples qui prennent à la fois une mère qui va donner ses ovules et à la fois une mère porteuse, en fait. Voilà, pour éviter justement l'attachement dont tu parles.
Et alors, si vous voulez, le président de la République lui dit c'est la ligne rouge.
Il est con.
Mais on s'aperçoit que des anciens secrétaires d'État, Monsieur Bonne, Amel Ayri, secrétaire d'État, s'en disent. Donc le débat, il est là. Il est là et il va être réglé. Alors après, marchandisation, pas marchandisation, bénévolat, pas bénévolat. Moi, ça me fait un tout petit peu peur. Mais si vous voulez, quelque part, c'est la remise en cause de la structure familiale telle qu'on la connaissait dans le passé. Un homme, une femme, des enfants. Et là, aujourd'hui, ça change.
Oui,
la structure familiale est en train de changer.
C'est un peu daté. J'ai connu un cas extraordinaire.
C'est quand même la majorité.
J'ai connu un cas extraordinaire avec GPA fait avec une amie. Du coup, l'enfant, il avait deux papas et puis sa maman qui le voyait. C'est extraordinaire. les deux papas ont divorcé, le papa, le vrai, le géniteur, s'est remarié avec un autre papa et la maman s'est remariée. Donc il avait à la fin trois papas et trois mamans.
Oui,
donc,
moi je connais un enfant qui est né avec deux papas, il y a deux papas, deux mamans et ça se passe très bien.
Oui,
ça,
oui d'accord.
Mais ça se passe mal. Il faut faire très très attention.
Daniel Riolo, est-ce qu'on a raison? En fait, le débat il est ouvert, Robert, il a raison et finalement c'est le tweet aussi de Marion Maréchal Le Pen qui a fait s'enflammer les réseaux là-dessus. Mais est-ce qu'on a raison d'en débattre dès lors que c'est une pratique interdite?
Alors déjà, je vais essayer d'être un petit peu concret, puisque Robert parlait tout à l'heure des frontières qui, une à une, sont tombées. Et effectivement, on a tous en mémoire le « ça n'ira pas plus loin, ça n'ira pas plus loin, ça n'ira pas plus loin ».
Pourquoi prétendre?
À partir du moment où toutes sont tombées, pourquoi faire tomber les suivantes? Les suivantes seront celles de la soi-disant éthique qui devrait protéger cette pratique. Or, on sait très bien qu'à partir du moment où elles tomberont, les autres tomberont et qu'on ira vers des entreprises et qu'on ira à 100% vers la marchandisation. Si quelqu'un qui veut avoir recours à la GPA m'assure à 100% qu'il ne choisira pas la mère porteuse, je ne le croirai pas. Évidemment qu'on choisira. On n'ira pas prendre une mère porteuse malade, grosse, moche, qui n'aura pas les yeux comme il faut, qui n'aura pas l'ADN comme il faut. Tout ça, c'est du pipeau et du mytho. On nous ment sur cette histoire-là. Pour l'instant, c'est réservé à des riches qui peuvent choisir et payer
et voilà.
pour leur enfant.
Oui,
moi, je ne parle même pas de ce dont tu parles, Estelle. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il n'est pas heureux? Moi, j'en doute pas de ça. Moi, je veux même pas... en fait, tomber dans la caricature du débat qui se profile et qui va s'offrir à nous, à savoir, comme c'est Marion Maréchal qui l'a dit, alors c'est le diable, et alors forcément, il faut aller contre son idée. À partir du moment où c'est elle, tu l'as dit toi-même, qui a enflammé les réseaux, évidemment que être contre cette idée, ça va te ranger dans la catégorie facho.
Jean-Luc Mélenchon est contre la GPA, par exemple.
Il a dit qu'il était pour la reconnaissance des enfants dans son électorat, on a des gens dont la religion interdit cette pratique-là.
Mais ce qu'il dit, lui, c'est qu'il est pour la reconnaissance des enfants, mais il dit c'est une position qui est très paradoxale, mais qui est partagée par beaucoup de monde, c'est on reconnaît les enfants si on est par GPA, on les reconnaît, mais il est contre philosophiquement la GPA, et c'est la position de beaucoup de gens.
C'est pas que philosophiquement, moi, je veux bien qu'on fasse des grands débats, des grands principes, juste poser les questions concrètes. On me dit éthique, pas éthique. Ok, éthique, ça veut dire en gros... on va contrôler que ce soit pas... C'est quoi, en fait? C'est qu'il n'y a pas un business derrière? C'est qu'on n'est pas acheté à quel prix? Oh, d'accord. Bon, alors, si c'est éthique, comment on va choisir le dossier? À qui on va dire t'as le droit, t'as pas le droit? Ah, c'est parce que vraiment, tu peux pas avoir d'enfant, mais à quel degré? T'as essayé d'autres trucs et tout. Donc, il va falloir classifier tout ça. Le dossier, c'est quoi? C'est remboursé par la Sécurité sociale? Éthique.
Bah oui.
Donc, remboursé par la Sécu.
C'est remboursé par la Sécurité.
Est-ce que les Français seront prêts à ce que la Sécurité sociale rembourse également ça? Mais elle va rembourser quoi, en fait? Le fait que qu'une femme ait accepté pendant 9 mois, donc elle va consacrer 9 mois de sa vie. Donc, tu sais ce que c'est une grossesse? Nous, on le sait pas. 9 mois de ta vie, tu fais gaffe à peu près à tout quand même. Si tu veux qu'un enfant soit quand même en bonne santé.
Donc, c'est chiant.
Ça va avoir un coût.
Est-ce qu'il y a un suivi?
Ça va avoir un coût. La femme, il va falloir la payer, il va falloir qu'elle fasse attention, il va falloir quand même.
Donc,
qu'elle passe des examens,
exactement.
Mais il faut qu'elle soit payée pour ça parce qu'elle va arrêter son boulot. Enfin, je dirais, tu
ne le feras pas gratuitement.
Donc, il y a un contrat.
Donc, il y a un contrat. S'il y a un contrat, comment veux-tu qu'on évite la frontière qu'on fera tomber de la marchandisation et du business? C'est impossible, en fait.
Et tu vas devoir payer cette dame, en tout cas lui payer ses soins médicaux, ça c'est sûr.
Posons les questions concrètes et vous allez voir que, effectivement, on va vers tout ça. Pour moi, c'était des débats, d'ailleurs, qui existent depuis des années et qui étaient réservés à la science-fiction. C'était les films. Vous avez tous vu ce chef-d'œuvre qui est Gattaca, où effectivement, en fonction de l'ADN, on fait le choix, comme on va dans comme on pousse la porte d'un bureau avec une personne qui a une blouse et on lui dit, moi j'aimerais que l'enfant il ait les yeux bleus, que effectivement s'il est malade ou si la mère elle est porteuse de quelque chose qui va pas, non, je la choisis pas elle. Donc on fera des catalogues. On sera obligé de faire des catalogues.
Mais pardon, pardon,
c'est
Daniel.
Le génisme.
C'est le génisme.
Non, mais attends.
On fera du catalogue.
Non, mais attends, Daniel, excuse-moi, t'as aussi des couples aujourd'hui qui se posent la question parce que la mère a une maladie génétique. Est-ce que je vais avoir un enfant ou pas parce que j'ai le risque de lui transmettre.
Oui,
t'es pas obligé d'avoir une GPA pour se poser cette question.
Sauf que là, tu entreras dans le cadre d'un choix. Donc, c'est pas uniquement la mère, on va dire, traditionnelle. Tu seras obligé de monter un catalogue.
Non.
Avec
bien,
le prix, avec tu montreras un catalogue avec le prix. Est-ce que tu peux payer 100 000 Est-ce que tu peux payer 150 000
Daniel.
À 200 000, t'auras la perfection, t'auras un ADN purifié.
Aujourd'hui,
tu seras dans le génisme. C'est obligatoire.
Aujourd'hui, c'est plutôt 180 000 de toutes les manières.
Ce que vient de dire Estelle, ça me paraît très important, c'est qu'une majorité des GPA aujourd'hui, il s'agit de couples hétérosexuels.
Exactement.
Pour les raisons.
Exactement.
Et moi, je trouve qu'il faut sortir du débat le fait que ce soit homosexuel, hétérosexuel. Pour moi, ça n'a pas.
Mais on doit le dire aussi, ça.
Oui.
C'est hyper important,
en fait,
bien
tu
sûr.
Tu limites le débat si tu fais ça, parce que tu vas ouvrir la porte au débat sur l'homophobie, ces choses-là. Alors que, au fond, mais ça, après, on s'en fout.
C'est pour ça, ça qu'on rajoute qu'effectivement, aujourd'hui, la majorité des couples qui ont recours à la GPA.
Oui. Je ne vois pas ce qu'apporte cette précision.
Je le précise parce que Marion Maréchal Le Pen, par exemple, son tweet, il est là-dessus au départ.
Mais en c'est fait, pour la ça GPA, qu'il faut s'en foutre de ce
la
tweet.
GPA, elle est pour
sinon, on va limiter le débat. On va enfermer le débat dans quelque chose qui va devenir politique. Alors que ça ne doit pas l'être.
Mais le débat et le droit à l'enfant. Est-ce qu'il existe un droit à l'enfant?
Bon. On a plusieurs invités sur ce débat et plusieurs auditeurs qui veulent réagir. On va commencer avec Romain. Romain, lui, il a eu deux enfants par GPA, une petite fille de 16 ans et un petit garçon de 4 ans. Bonjour Romain.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le parcours, voilà, d'une GPA. Vous êtes français, vous vivez avec votre mari depuis 23 ans. Vous avez fait le choix d'avoir une petite fille, il y a 16 ans. Désormais, comment ça se passe quand on veut avoir recours à la GPA, vu que c'est interdit en France?
Alors, déjà, la GPA est interdite en France, effectivement, mais elle n'est pas
Romain, on vous entend très très mal, il faut parler vraiment plus près de votre combiné.
Oui, je disais en fait que là, vous m'entendez mieux là ou pas?
C'est bof, ça grésille pas mal.
Ça grésille pas mal, je suis désolé.
Là c'est bien.
Je disais en fait qu'effectivement la GPA n'est pas interdite dans les pays où elle est pratiquée, comme le Canada ou les États-Unis, dans les pays qui la pratiquent de façon éthique. Elle n'est absolument pas interdite, elle est interdite sur le sol français. Ce qui est interdit, c'est de rapporter effectivement ce processus sur le sol français. Il n'y a pas de GPA sur le sol français aujourd'hui, donc il n'y a rien d'interdit dans ce qui se produit.
Comment ça se passe en fait quand on se dit on va avoir recours à la GPA, on va avoir un enfant par GPA, comment ça se passe, combien ça coûte Romain?
Bon, alors je pense que c'est réducteur de passer directement à la question de l'argent en fait par rapport à ça.
Bon, en fait il y avait deux questions.
ce que j'aime pas justement là-dessus, c'est que souvent c'est du sensationnalisme en fait lorsqu'on répond sur des questions sur la GPA. Et je voudrais juste revenir une seconde parce que j'entendais les personnes qui discutaient avec vous pendant le débat il y a quelques minutes. Et effectivement, j'ai entendu pas mal de choses qui étaient assez incorrectes en tout cas. Et j'aurais aimé revenir déjà sur la première chose, c'est qu'en fait, on parlait de GPA, mais le débat a très très vite été orienté sur une GPA qui serait uniquement homosexuelle.
On l'a recentré.
Vous aviez parlé effectivement du PACS, après le PACS il y a eu le mariage, après le mariage on a dit qu'on n'aurait pas des droits à la GPA, etc. Donc ça oriente uniquement sur les GPA homosexuels. Or, vous l'avez rappelé très justement, la GPA, d'une façon majoritaire, sont des hétérosexuels qui la font. Donc oui, quand Marion Maréchal Le Pen fait un tweet sur la GPA et qu'elle cible immédiatement une famille homoparentale, elle le fait sous couvert un petit peu d'homophobie.
J'entends Romain, mais
sur Sharon Stone, ou sur toutes les personnalités qui sont aussi médiatisées et qui médiatisent leur GPA.
Romain, je l'entends, mais est-ce que vous pourriez nous dire quel est le parcours? Parce qu'en fait, le parcours, il est pas du tout facile. Voilà, pour un couple qui a recours à une GPA, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours?
Le parcours, effectivement, il est pas simple. Moi, aujourd'hui, ma fille a 16 ans. Le parcours, en fait, pour avoir ma fille, donc il y a 16 ans, il a duré 4 ans. Donc, en fait, c'est un parcours qui a commencé il y a 20 ans, plus exactement. Ensuite, j'entendais dire aussi que en fait, on pouvait imposer ou forcer une femme à faire de la GPA. C'est totalement faux parce que...
Non, mais Romain, votre parcours...
Oui, oui. Dans mon parcours, donc justement, on s'adresse à une agence effectivement qui propose en fait des dames qui ont accepté de porter l'enfant d'un autre couple, que ce soit hétéro ou homosexuel, et en fait, ce sont elles qui choisissent. Elles ont parfois 8 dossiers et elles décident soit d'en choisir un, soit de ne pas en choisir du tout. Je veux dire, il ne faut pas travestir la parole des femmes à ce niveau-là.
Non, mais c'est très bien de le rappeler, justement.
Et pourquoi elles le font ?
un de vos chroniqueurs, je crois Robert de mémoire, pardon si je me trompe de prénom, qui disait effectivement on ne choisirait jamais une mère porteuse qui était grosse ou qui était moche. Mais c'est faux parce qu'en fait, une mère porteuse, ce ne sont pas ses enfants génétiques. Donc en fait, il n'y a pas de choix en fait qui est conditionné au physique sur une mère porteuse. Alors si vous voulez, oui, pour la donneuse d'ovocytes, effectivement, il y a une condition de physique, mais c'est complètement autre chose.
Il y a les deux.
Romain, on vous a perdu.
Vous m'entendez toujours ?
Oui, allez-y.
Oui, je disais qu'en fait, sur les, on peut choisir facilement de prendre une mère porteuse qui soit en surpoids ou qui ne le soit pas, ou qui soit pas physiquement agréable ou qui le soit. En fait, ça n'a pas.
Qui a une maladie ou un truc comme ça.
Enfin, on peut ne pas la choisir surtout.
On peut ne pas la choisir aussi si on veut.
Non mais attends. Juste eh oui. Vous, Romain.
Ce que je
veux
vous expliquer, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de critères physiques en fait ou sur une mère porteuse, puisqu'en fait, elle n'est pas biologiquement en fait
légale. Oui, mais on peut dire non.
Mais
pas de celle-là.
Non mais médicalement, je veux répondre médicalement. Estelle.
Alors encore une fois, la personne qui m'a répondu, on peut dire non. En fait, c'est faux.
Il venait d'où l'ovocyte, ces deux hommes ?
Ce n'est pas nous,
c'est notre mère.
On demande
ou on peut demander à la mère porteuse d'utiliser son ovocyte.
Pas tous en même temps. Romain, après, j'imagine effectivement que, par exemple, si vous avez les yeux bleus, bah, vous allez demander plutôt une mère qui a quand même les yeux bleus, enfin voilà, d'un physique, je ne veux pas dire ressemblant au vôtre, mais peut-être pour qu'il y ait moins de questions, j'en sais rien.
Oui, vous parlez de la donneuse d'ovocytes dans ce
cas-là.
C'est complètement différent en fait, puisque les donneuses d'ovocytes sont effectivement des personnes qui sont rémunérées pour donner leurs ovocytes, c'est-à-dire leurs ovules.
Tout à fait.
Et donc effectivement, il y a un critère physique qui correspond aux familles, aux demandes des familles à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de génisme, il n'y a pas de régulation.
C'est le risque qui est en train
Et Romain, juste sur la mère porteuse. Alors pour le coup, comment est-ce que vous la choisissez ? Est-ce que c'est au hasard ? On va dire comment ça se passe ?
C'est elle qui nous choisit. Encore une fois, je tiens à ce que vous compreniez
ça. C'est très important.
Ce ne sont pas les candidats à la GPA qui peuvent choisir les mères porteuses. Ce sont les mères porteuses qui choisissent.
Et qu'est-ce qui empêchera que ce soit l'inverse, monsieur ? Qu'est-ce qui empêchera à terme qu'on fasse dans l'autre sens ?
Alors monsieur, justement, il faut pas être dans l'abolitionnisme en fait, il faut réguler les choses, il faut permettre effectivement, on a la chance en France d'avoir une loi qui s'appelle la loi bioéthique qui permet aujourd'hui le don de gamètes, le don de spermatozoïdes. Alors pourquoi ne pas envisager qu'une sœur puisse donner à sa sœur effectivement la possibilité d'être enceinte gratuitement parce que c'est basé sur le don. On a cette chance là.
Qu'est-ce qui se passe en Israël ?
On évite les trafics. On évite effectivement de tomber dans des caricatures de ce qui se produit aujourd'hui. Et oui, vous savez, vous parliez de la GPA aux États-Unis ou au Canada parce qu'elle est légale là-bas et parce qu'elle se pratique de façon éthique. Mais il y a des pays en Europe qui la pratiquent de façon éthique. L'Angleterre, vous l'avez rappelé, c'est Denis, mais la Grèce également, mais le Danemark aussi, et la Belgique aussi. Est-ce que vous croyez que ces pays qui ont donc accepté de légiférer sur la GPA depuis des années maintenant ne seraient pas revenus dessus s'il y avait un problème au niveau dont vous parlez.
Merci en tout cas Romain d'avoir été avec nous et merci beaucoup pour ces précisions et voilà, la question c'était faut-il ouvrir le débat pour Romain en tout cas oui. C'est oui. Je voudrais lire également le témoignage d'Arnaud qui nous appelle les Alpes-Maritimes. Mon mari et moi avons eu un enfant l'année dernière aux États-Unis par GPA. Ça nous a coûté 180 000 euros payé cash suite à un héritage. C'est la mère porteuse qui nous a choisi. La GPA n'est pas réservée qu'aux couple homosexuel, donc c'est un peu la même chose que Romain, bien faire cette précision, et vous avez plein de messages également sur l'appli RMC Paul.
Oui, les avis sont très partagés sur Direct Studio, je vais vous en sélectionner deux. Julien, qui lui nous dit, pour moi qui était adopté à 14 mois, la GPA a l'avantage d'être une adoption programmée du début à la fin. On doit avoir ce débat, mais avec le pays qui s'extrémise à gauche ou à droite, ça ne va pas être facile. Et enfin, Sylvie, elle est totalement contre. Elle dit, pour la GPA, ce n'est pas compliqué. Le grand oublié, c'est l'enfant qui, dans la GPA, n'est pas qu'un objet de désir. On passe de l'enfant roi à l'enfant objet. Ça n'est pas de l'amour.
Alors, on a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il ouvrir le débat sur la GPA?
Eh bien, vous répondez non pour 56% d'entre vous.
Ouais, mais ça veut dire qu'il y a 44% de oui.
Ça veut dire qu'il y a débat.
Ça veut dire qu'il y a débat et ça veut dire qu'il faut l'ouvrir. Après, peut-être qu'on le refermera très vite. Mais en tout cas, manifestement, il va falloir l'ouvrir quand même.
Un nazi à 70 ans, on dit oui.
Dans un instant, on parlera du 1er mai et des brins de muguet. Vous savez, c'est la tradition. Sauf que cette année, le brin de muguet, il est à plus de 5 euros. Donc, autant vous dire que la tradition va prendre du plomb dans l'aile. Est-ce qu'il faut continuer d'offrir du muguet le 1er mai? On pose cette question dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
8h33, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Paul Lassen, Daniel Riolo, Robert Sebag et Perico Legas. Et tout de suite, on va s'intéresser à la tradition du jour, et c'est celle d'offrir un petit brin de muguet le 1er mai, c'est-à-dire mercredi. Fleuriste ou vendeur à la sauvette, mercredi, vous trouverez du muguet à tous les coins de rue. Le problème, eh bien, c'est que cette année, Paul, votre petit brin vous coûtera plus cher, la faute à l'inflation, mais pas que.
Oui, il faut savoir que l'an dernier, les Français ont dépensé en moyenne 7,80 € pour un pot de muguet. C'est 10% de plus qu'en 2022. Wow. C'est l'interprofession française de l'horticulture qui donne ces chiffres et ça pourrait monter à 8 euros, 8,50 euros cette année. Donc, autre raison, eh bien, c'est le climat. On va prendre l'exemple de l'Occitanie. Difficile d'imaginer un muguet qui sera prêt pour le 1er mai. La météo de cette année ne le permet pas avec l'augmentation des températures notamment. Le muguet produit est trop précoce et il aurait fallu le cueillir dès le 15 avril, donc forcément pour le 1er mai, c'est compliqué. Le phénomène est constant et s'amplifie même depuis quelques années et ça se ressent sur les ventes. L'an dernier, par exemple, il n'y a que 1,7 million de foyers qui ont acheté un brin de muguet le 1er mai, alors qu'il y a 30 millions de foyers dans le pays. Mais outre l'inflation, on l'a dit, et le climat, l'Institut met en avant une autre raison, la perte de sens de cette tradition très liée à la fête du travail historiquement. Aujourd'hui, ce sont principalement les plus de 50 ans qui sont encore friands de cette tradition et qui continuent à acheter du muguet tous les ans. Ils représentent plus de la moitié des ventes. C'est un constat inquiétant pour l'interprofession française de l'horticulture puisque les ventes de muguet rapportent chaque année entre 5 et 6 millions d'euros.
Alors, faut-il arrêter avec cette tradition du muguet? Daniel Riolo, vous allez offrir un brin,
pourquoi,
vous ou pas?
Pourquoi faut arrêter? Ouais.
Parce que c'est trop cher et parce qu'en plus ça demande beaucoup
si
d'eau.
Trop cher, tu
et pour un petit brin qui, mais pour un petit brin qui va mourir le lendemain, c'est pas écolo le muguet.
Mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, j'ai toujours entendu dire de toute façon que c'était trop cher et que ça puait l'arnaque quand tu l'achetais. Sauf que t'avais plein de gens que ça amusait d'aller se foutre avec une bassine devant n'importe quel commerce et vendre son petit brin de muguet. D'abord, c'est une tradition très populaire qui à la base est plutôt estampillée gauche puisque c'était synonyme de fête du travail. C'était même les syndicalistes qui en vendaient. Et la tradition, bah, tu la respectes si t'as envie de la respecter. Mais pourquoi il faudrait éliminer toutes les traditions? Tu vas voir que bientôt, acheter
écolo.
Du muguet, ça va devenir fasciste aussi.
Bah,
c'est quand même incroyable, ça. Bah, tu fais ce que tu veux, c'est pas envie de
l'acheter. Le muguet est toujours blanc.
C'est une tradition. Vous vous rendez compte quelle horreur, une tradition.
J'avais pas pensé
dès qu'il y a un truc de tradition dans ce pays, on veut l'éliminer.
Mais c'est pas l'éliminer.
Mais de pire.
Mais c'est
libre d'aller l'acheter ou pas, merde. Si t'as pas envie de l'acheter, tu l'achètes pas.
Excuse-moi, on prend la tête pour un petit voyage en avion. Le muguet, c'est
mais
pas
mais l'achète pas si t'as pas envie.
Mais c'est pas ça, c'est pour la planète.
Mais laisse les gens libres de l'acheter s'ils ont envie. Laisse les gens libres de se faire arnaquer s'ils ont envie d'acheter un brin de muguet.
C'est mauvais pour la planète, enfin pardon.
Ton cinéma sur le brin de muguet, tu rigoles en plus tellement tu sais que c'est.
Vous savez ce qu'il y a de bien dans cette tradition? C'est que c'est la vente libre et que c'est les petits jeunes.
Mais bien sûr,
on ne demande aucune vente où on ne demande aucune
achète
autorisation.
Achète une bassine et un brin de muguet à ton fils, voir s'il va pas vendre ça dans une boulangerie.
Personne. Les petits jeunes, ils trouvent 3-4 brins, ils se mettent sur le trottoir, etc. Des personnes âgées. Et ça, je trouve ça extrêmement bien. Il y a aucune permission particulière.
Oui, madame.
Alors, par contre, il y a un phénomène financier.
Mais attendez, vous en foutez. Il y a pas de problème.
En quoi la culture du muguet, qui est souvent d'une manière libre dans les forêts.
Parce oui, c'est sur les bords du périph', il y en a partout.
Non, mais alors donc, ça. Où est le problème écolo?
Le problème, t'achètes une fleur à 10h, à 17h, elle est morte. Bah oui, c'est un problème. C'est la culture de l'éphémère. Bah, excusez, mais si vous voulez cette culture-là,
c'est beau l'éphémère. Mais Robert, arrête, elle est en train de te faire marcher.
Excusez-moi. Vous parlez-moi de l'avion, parlez-moi, mais ne me dites pas que le muguet est un problème sur l'écologie.
Excusez-moi, je me demande si le muguet ne pollue pas plus que l'avion.
Est un problème sur l'écologie.
Je préférerais me passer du muguet si ça gêne personne. personne. Enfin bon.
Me dis pas qu'on va avoir de vrais intervenants sur ce débat. T'as un scientifique pour parler de ça ou?
Mais on va voir.
Sandrine Rousseau s'est exprimée sur le Muguet.
Mais pas encore, mais
parce que il reste deux jours.
Parce que c'est la valeur étalon sera là, Péricot.
Je t'emballe
pas sans avoir pris note de ce qu'a dit Sandrine Rousseau.
Elle a encore rien dit. Péricot, les gars.
Moi, j'ai pas compris. C'est le débat sur la GPA qui continue. On est bien sur le Muguet.
On est bien sur le Muguet.
Estelle, est-ce que vous pouvez demander à la régie de nous retrouver le temps du Muguet par Francis Lemarque en fin de séquence?
Non, on va pas faire ça, on va faire fuir les jeunes.
Non, mais ben, alors, je vais vous dire, je vais révéler le poteau rose, c'est le cas de le dire, parce que je vais le dire publiquement. Moi, j'ai mon grain de Muguet en plastique depuis 20 ans pour Natacha. Elle y voit que du feu à chaque fois. Je lui tire les larmes aux yeux.
Un beauf, en fait.
Ah, je lui tire les larmes aux yeux.
Je crois qu'elle va être au courant, maintenant.
Mais ça va être répété parce qu'il y a vachement de gens qui écoutent l'émission. Oui. Peut-être pas au courant.
Il est vachement bien fait.
C'est un Muguet.
Vous allez chez le fleuriste, au moins?
Ah non, je regarde.
La sauvette, bah bravo.
Vous savez, et je regarde. Je suis content de ce que vient de dire Robert. Je regarde la personne qui semble être la plus défavorisée socialement. Je vois bien que c'est un petit frère. Et j'en achète 3 ou 4 brins. Alors quelquefois je les garde. Mais le brin en plastique pour Natacha, ça, j'y tiens beaucoup. Et elle y voit que du feu. Tellement c'est bien.
Mais moi j'achète en pot parce que moi je peux replanter derrière et c'est écolo.
Je ne sais pas alors.
Alors. En pot.
Attention.
Bah évidemment.
Attention par contre.
Non mais j'en offre à mes enfants.
Attention.
Parce que ça leur fait plaisir.
Attention.
C'est un peu leur Saint-Valentin.
C'est extrêmement toxique. J'ai un copain qui s'en est fait un pétard un jour pour s'amuser.
Il est allé à l'hôpital.
Je vous jure que c'est vrai, il est allé à l'hôpital. C'est très toxique. Voilà. Oui. Et je crois surtout que la cueillette sauvage est interdite.
Quelle espèce de débile il faut pour se faire un pétard avec un muguet.
En écoutant le chant du muguet.
Le couteau le plus aiguisé du tiroir, celui-là.
En écoutant le chant du muguet par Francis Lemarque et tu fumes ton petit pétard.
Taisez-vous, en plus c'est illégal. Vous avez des messages, Paul?
Oui, celui de Fanny qui dit non, il ne faut pas arrêter. C'est une tradition qui dure depuis 1560, associé en 1889 à la fête du travail. Par contre, il faudrait peut-être revenir à quelque chose de plus simple, pas de bouquet ou de pot, mais juste un brin tout seul et sans artifice.
Alors, non, pas un brin, parce
on précise. Hein.
Il faut savoir.
Le brin, elle veut pas le replanter.
Quand tu achètes un pot, alors ça te coûte 7,80€, déjà c'est un brin, franchement quoi. Et derrière, tu le replantes et après ça fait des pousses.
Personne
ne
t'oblige à l'acheter quand même. Hein. Tu sais que t'es libre d'acheter
le brin, la boutonnière.
La police va pas venir t'arrêter parce que t'as pas acheté de muguet.
C'est comme la Saint-Valentin. Enfin, je veux dire, c'est important de faire
un petit geste. Comme la Saint-Valentin, tu fais ce que tu veux.
Une précision historique qu'on évoquait en antenne. Il n'y avait pas de Saint-Valentin au XVIe siècle. C'était le 1er mai. Et un jour, on remet un brin de muguet au roi Charles IX en 1561. Et il décide que toutes les dames de la cour devraient avoir un brin de muguet depuis 1561. Et c'est une tradition amoureuse et sentimentale. C'est un geste culturel humaniste qui est un geste de paix en ce temps de barbarie. Je trouve que c'est bien de préserver, en ce temps de barbarie, de sauvageon, je trouve que c'est bien d'offrir son petit brin de muguet
à sa petite dame. Il y a Estelle un effet pervers sur l'augmentation effectivement du muguet. J'ai appris qu'il y avait des fleuristes qui étaient dévalisés, si vous voulez, dans les jours qui précèdent le 1er mai, parce qu'ils ont des stocks de muguet, et qu'il y a des fleuristes qui dorment dans leur boutique pour éviter effectivement le cambriolage fait de l'augmentation de ne pas être dévalisé.
Et s'il n'y avait plus de muguet, les fleuristes ne seraient plus cambriolés. Donc c'est un argument.
Vous jouez au ping-pong, vous répondez à mes arguments. C'est un peu facile.
Mais excusez-moi, on passe notre temps dans cette émission à traquer le superflu, à dire sans arrêt qu'il faut arrêter d'offrir des babioles à Noël, qu'il faut arrêter.
C'est pas la même chose.
C'est pas parce que tu passes ton temps à dire ce genre d'inepties qu'on est obligé d'être d'accord.
On a besoin Mais on a besoin de superflu.
On a encore notre conscience dans cette émission,
le
Estelle.
Le monde dans lequel on vit, on a besoin de superflu. Merci le superflu. Heureusement. Heureusement, ne touchez pas ce genre
Robert
de choses.
Robert aura été le seul sérieux sur ce débat. Ça,
Juste, tu offres du muguet à qui, Daniel?
Bon, à ma maman, probablement, demain.
C'est mercredi.
Bah oui.
Pas aux enfants, rien. Bon, et à ta femme non plus.
Pourquoi les enfants?
Ma femme et ma fille.
Possible, les enfants, le muguet, je pense que.
Bah, ça va te coûter un bras. Ça fait déjà 4 personnes.
Et alors?
Non, pourquoi 4 personnes?
C'est de l'argent bien investi.
Ta femme.
Et
ta mère,
ma maman,
ça
fait 2, non?
Et tes enfants?
Il veut pas les enfants, le muguet.
C'est de l'argent bien
investi. Ils doivent se bouger pour aller en acheter pour leur grand-mère. Oui, ça, oui, ils vont se bouger pour y aller.
Ma femme et ma fille. Voilà.
Le jour où ma petite Panneau vendra du muguet, ben j'en achèterai quand même. Voyez, si elle a besoin un jour pour finir ses fins de mois, ou Mathilde Panneau, ou Madame Obono, ou voilà. S'ils vendent du muguet, moi j'achèterai quand même.
Mais parce qu'il dit que c'est une tradition d'extrême gauche. On termine avec des messages, Paul.
Oui, Tom, qui est aussi contre cette société de consommation, il dit je n'achète pas de muguet le 1er mai, je ne consomme pas de chocolat à Pâques, je n'offre pas de fleurs à la Saint-Valentin, je ne mange pas de galettes des rois, je refuse d'être le consommateur.
Il fait ce qu'il veut, c'est la
nuit. Et je me sens très
bien.
qui va s'il est chiant comme un jour de pluie.
Je pars pas en week-end avec lui, hein. Comment il s'appelle?
Non, mais Tom. Vous êtes grave.
Ah, bah, dis donc, Tom.
Mais il a le droit,
il a le droit
de pas
être chiant et il a le droit de pas nous emmerder.
Maintenant, la tradition et la tolérance.
Voilà. Alors, l'autre qui boit plus, qui fume plus, il est chiant, oui. Mais...
Alors, justement, on va en parler, taisez-vous, on va en parler dans un instant. Je voudrais avoir Paul le résultat de notre consultation sur Twitter.
Oui, on vous a posé la question, doit-on arrêter avec la coutume du muguet? Eh bien, les gens sont plutôt d'accord avec vous autour de la table, puisque vous répondez non pour 78%.
C'est tout. On a gagné.
Dans un instant, Anthony Morel qui nous parlera d'une grande première, la première course de voitures autonomes qui s'est tenue ce week-end. Je vais vous dévoiler un scoop, ça ne s'est pas très bien passé. Voilà, les voitures autonomes, on n'est pas prêt de monter dedans. Je peux vous dire que ça a été un fiasco. Anthony Morel nous en parlera. Et puis à 13h, on reviendra sur les propos de Léa Salamé. Justement, Léa Salamé, elle avait le comédien Artus comme invité dans son émission Quelle époque, samedi soir. Artus lui a dit qu'il avait arrêté de fumer et de boire. Et là, elle lui a répondu, oh là, vous avez dû devenir chiant. Ces propos ont fait polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes choqué, vous, qu'on puisse... quelque part, dire à quelqu'un qui a arrêté l'alcool qu'il est devenu chiant. Dites tout ce que vous en pensez au 32-16. Dites-nous par exemple aussi si vous avez arrêté l'alcool et si vous avez eu plein de remarques en soirée. On en débattra bien sûr avec vous grâce au 32-16 et grâce à l'appli RMC. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et c'est le moment de parler nouvelles technologies avec Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Eh oui. Ce bruit de course automobile, c'est un tout nouveau sport auto dont vous allez nous parler, Anthony. On connaissait la Formule 1, le rallye, le NASCAR aux États-Unis, mais ce week-end avait lieu la première course de voitures autonomes, des voitures téléguidées pour adultes en fait.
Bah, c'est un peu ça, effectivement, ça se passait à Abu Dhabi sur le circuit Yas Marina, un circuit mythique qui accueille le Grand Prix d'Abu Dhabi, donc c'est vraiment pas rien. Et d'ailleurs, ça ressemblait comme deux gouttes d'eau à un Grand Prix de F1. On a les voitures monoplace, ça c'est bon, check, on a le circuit, on a les écuries, on a une fan zone, enfin tout comme un Grand Prix de F1, sauf qu'à l'intérieur du cockpit, eh ben, il n'y a pas de pilote. Il n'y a même pas de cockpit d'ailleurs, il n'y a plus besoin. En fait, ces voitures, elles sont complètement autonomes, le pilote est remplacé par un ordinateur, tout simplement, elles se débrouillent absolument.
Mais les images sont dingues,
seules.
Ah ben, on dirait des Formule 1. Quoi.
On dirait des Formule 1. Alors pour les spécialistes, c'est des voitures de super Formula japonaise, c'est l'équivalent de la Formule 1, c'est un tout petit peu moins bien, mais enfin ça va à 300 km/h quand même. Et à l'intérieur, vous avez des GPS, des caméras intelligente, un algorithme en fait, qui analyse la position de la voiture à chaque seconde, si vous voulez, qui va analyser la trajectoire dans les virages, la position des autres voitures, les obstacles, etc., etc. En fait, tout ça est programmé à l'avance par des ingénieurs, par des scientifiques. Bah, et une fois que les voitures sont lâchées, elles se débrouillent toutes seules. Vous disiez voiture télécommandée, en fait, c'est pas exactement ça. Ben, moi, je trouve ça génial. C'est une compétition plus technologique que sportive, on pourrait se dire, mais je trouve que c'est extraordinaire de voir jusqu'où on peut pousser la machine. Et est-ce que on peut avoir des voitures de Formule 1 qui sont plus performantes que des pilotes humains? C'est quand même extraordinaire, et c'est vrai que le résultat est assez dingue.
Alors le résultat est assez dingue, mais il n'y a pas eu d'accident, c'est-à-dire et tout s'est très très bien passé.
Pas du tout, parce que là les images que je vous ai fait un petit montage de tout ce qui s'était bien passé.
Je me disais.
On va voir maintenant ce qui s'est beaucoup moins bien passé, et il y a eu énormément de bugs. Vraiment, il y a eu des accidents en pagaille, des voitures qui sont retournées, une voiture qui est entrée dans une autre, d'autres qui ont raté des virages, qui sont entrées dans des murs.
Alors, les voitures à des millions, hein, évidemment.
Ah bah évidemment, ah bah, évidemment, on parle quand même de voitures de sport très très haut niveau. Alors le truc, c'est que on pourrait se dire, ça arrive aussi aux pilotes professionnels. Il y a aussi des crashs, mais enfin pas de cette ampleur-là, disons, à cette fréquence-là sur une seule compétition. Là, ça faisait quand même vraiment beaucoup, à tel point qu'un certain nombre de spectateurs, parce que c'était une première, tout ça a été streamé, diffusé sur Internet, on dit, mais attendez, mais c'est quoi ce sketch? C'est vraiment une blague, quoi, si vous voulez. Alors moi, je veux en retenir le bon et la performance technologique. Ok, là, on a un peu essuyé les plâtres, c'était la première édition, mais c'est quand même une performance d'ingénierie extraordinaire que de faire rouler des bolides comme ça à 300 km/h en mode autonome, même s'il y a eu quelques crashs, quelques petits accidents. C'est pas grave, la prochaine édition se passera mieux, on va le dire comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'en faire le sport automobile du futur que tout le monde pourrait regarder comme on regarde les prix de F1, quoi.
Mais je ne comprends toujours pas quel est l'intérêt.
Si, alors moi, je trouve ça génial. Alors je vais vous dire pourquoi.
Pas non plus. Hein.
En fait, alors.
Ça m'étonne pas.
Je te dis, moi, la course de voitures autonomes, que des voitures autonomes, ok, c'est que des boîtes de conserve, on peut se dire, il n'y a pas d'intérêt. Là où ça pourrait être intéressant, c'est si tu fais concourir des voitures autonomes contre les meilleurs pilotes humains.
Pour ah voir, mais oui, bien
ça,
sûr.
Ce serait extraordinaire. Attends, Lewis Hamilton contre la meilleure voiture autonome pour voir si l'homme... Bah, aujourd'hui, il gagne, t'as raison. Bah, mais oui. Je pense qu'on va arriver à un point de bascule d'ici quelques mois. Mmh. On est un peu au moment, tu sais, où on avait Garry Kasparov, le joueur d'échecs, qui affrontait Deep Blue. Et on savait pas trop s'il allait battre l'ordinateur ou si l'ordinateur allait le battre. Maintenant, c'est plié, l'ordinateur, il gagnait tous les coups. Donc, mais à l'époque, on savait pas. Voilà, exactement. Et donc là, en fait, c'est la même chose. Pour l'instant, les humains gagnent, mais vous allez voir qu'avec les avancées de la technologie, d'ici quelques mois, c'est terminé. Ces voitures qui aujourd'hui se crachent.
Génial, il n'y aura plus de pilotes de F1.
Non, mais non. Je trouve que votre réaction, elle est saine. En fait, c'est de dire, mais non, même s'il y a des voitures autonomes ultra performantes, on continuera à préférer regarder les humains. Donc en fait, ça ne va pas remplacer les pilotes. Non. Et alors, il y a un autre intérêt. Et un vrai intérêt, celui-ci, c'est qu'au-delà de la vitrine technologique, toutes les briques technologiques qu'on développe pour ces voitures autonomes, on va pouvoir ensuite
les adapter
pour la voiture de monsieur et madame tout le monde, pour des systèmes d'aide à la conduite, pour les voitures autonomes qui vont de plus en plus se démocratiser. Il y a plein de choses comme ça qui viennent de la F1, les systèmes de récupération d'énergie de freinage qu'on a mis dans les voitures électriques, ça vient de la F1.
D'accord.
Bien sûr, les matériaux composites plus légers qui mettent moins de risques dans les accidents, bah c'est pareil, c'est venu de la F1 dans les voitures de monsieur et madame tout le monde. Il y a l'efficacité des moteurs aussi, on les teste dans des conditions extrêmes à 300 km/h. Et ben là c'est la même chose, on pourrait imaginer que ces voitures qui roulent à 300 km/h sur circuit, sur départemental, voilà, on pourrait les adapter sans aucun problème, quoi.
Vous étiez à deux doigts de me convaincre, malheureusement votre chronique est terminée. On parle de quoi demain, Anthony?
Demain on va faire une petite dégustation.
Ah, de quoi?
Ah oui. Alors demain je vais vous faire venir
c'est génial.
Du poisson végétal demain. C'est une boîte française. Non, mais ne faites pas la grimace.
Ah, je suis content de pas rien en tout cas.
Non, mais je vois votre mou sceptique. Non, mais vous allez voir. Moi, j'ai goûté. Alors, j'ai déjà goûté.
Vous dire quel est l'intérêt?
Bah, quel est l'intérêt? En fait, ils ont fait des trucs extraordinaires.
L'écologie.
Qui reproduisent.
Ah oui.
Oui, alors, c'est ça. L'avantage, c'est celui-ci, effectivement. Lutter contre la surpêche, des arguments écologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de goût et de texture, vous allez voir, moi, je suis pas très convaincu par les steaks végétaux, les machins comme ça. Non, mais là, j'ai goûté des maquis de thon et des petits toasts au saumon fumé. Végétaux, franchement, si on vous dit pas que c'est pas du vrai poisson, vous faites pas vraiment la différence.
Perico, revenez demain. Je veux absolument que vous goûtiez le
pastilles avec des goûts et puis comme ça sera fait.
Ouais. Mais non.
Je veux que vous goûtiez le faux saumon demain, Perico.
Je suis pas dans l'émission, mais je viendrai goûter.
Je vous garde en dégustation pour la chronique d'Anthony Morel.
D'inventer tous les goûts, mais alors
bien
à quoi ça sert?
Oui. Merci beaucoup, Anthony Morel. On vous retrouve évidemment chaque jour en 12h50 dans Estelle Midi et en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, on parle de Léa Salamé, la présentatrice de Quelle Époque, qui a reproché dans son émission samedi au comédien Artus d'être devenu chiant car il avait arrêté l'alcool. Est-ce que ses propos vous ont choqué? On en débat avec vous dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.